Seigneur éternel, on veut placer nos cœurs dans la croisée de tes chemins et te demander de nous éclairer afin que nous puissions saisir le sens. Que dans ce temps, Seigneur, ce soit le temps de ta shrina qui dépasse totalement notre temps, notre dimension. Que nous soyons dans l'arrêt du temps pour être en toi. Que le rythme du monde, de l'univers, des soucis, des obligations s'arrête pour être avec toi. Dispose nos cœurs et nos pensées à entendre et non pas à recevoir mais pour donner. Alors, une fois de plus, dans le temps de la préparation, je ne m'attendais pas du tout, même si cela fait un grand nombre d'années que je parcours, que j'étudie, et à chaque fois je suis étonné de découvrir ce que je découvre et de voir ce que le Seigneur, et donc de pouvoir partager ce temps et ce moment qui va vous frustrer et va me frustrer. Car il est tellement vaste que juste dans une évaluation sommaire, il faudrait au moins 2 mois pour étudier 8 versets. Et je ne suis pas convaincu que ça suffit. Tellement que la profondeur du mystère de Dieu est là. Alors comme José a lu tout à l'heure le passage et l'a mentionné dans ce qui nous concerne, ce serait bien également de mentionner le passage de la Haftara, le passage des prophètes, hein, pour avoir un équilibre. C'est Elie Wiesel, cet homme extraordinaire, intellectuel, qui, lorsqu'il a parcouru un certain nombre de choses, et notamment dans ses études, elle dira sur ce chapitre 32 de Bereshit qu'il y a une aventure étrange, la plus mystérieuse qu'il ait pu connaître dans toute la Bible. Et en même temps, il va relever un certain nombre de points en disant que tout cherche à comprendre, mais aussi à résoudre l'énigme de cette nuit-là qui s'est passée près du gué de Yabok. Et jusqu'à l'heure actuelle, des millénaires après, il y a encore des écrits sur cet événement. On pourrait dire c'est fini, on le sait, c'est quelque chose qui est réglé, c'est quelque chose qui n'a plus besoin d'être réellement présent, d'être quelque part même à la limite enseigné. Et pourtant, juste en parcourant, parce qu'on sera à 0,01% en introduction, mais donc je ne vais pas me stresser, mais quelque chose d'extraordinaire. Parce que ce temps-là est le temps qui peut changer réellement. S'il est véritablement comme nous avons lu le passage, si l'enseignement, si à un moment donné, l'enseignement trace dans nos cœurs ces lignes de vie qui viennent d'en haut, qui viennent de Dieu, elles modifient tout. Elles changent tout. Elles transforment tout. C'est pas la tête qui a besoin d'être changée, c'est le cœur. C'est la compréhension du cœur qui doit être totalement modifiée. Alors, je vais introduire juste comme ça en disant que ce passage marque tout le temps de l'histoire du monde, dans toutes ses dimensions. Tout d'abord, quand il est dit que cette nuit-là, il y a eu un événement qui aurait pu paraître anodin, un simple récit familial, historique, qui se serait peut-être transmis comme ça aux enfants et aux petits-enfants pour raconter l'histoire du grand-papa, etc., au niveau de la mémoire. Mais cet événement a modifié l'histoire du monde. Et dans toutes ses dimensions. Et elle les modifie encore aujourd'hui. Elles sont encore actives dans le présent. Cette nuit-là, c'est exactement la même expression que nous allons trouver lorsqu'il y aura l'événement de Pessah. Cette nuit-là, la nuit de Pessah, la libération d'Égypte, sera une nuit différente des autres nuits de l'année, des autres années, de tout ce qui s'est produit avant. Cette nuit-là, il y aura un changement, il y aura une délivrance. Et c'est ce qui fera la fête de Pessah, c'est cette nuit-là. Pessah, ce n'est pas simplement faire le folklore rituel. Ce n'est pas simplement vouloir ressembler à une conformité judaïque, c'est de comprendre le sens de cette nuit-là. Et en même temps, cette nuit-là a marqué la véritable délivrance dans toutes les dimensions de l'humanité. Elle a marqué pour le peuple juif qui était, enfin qu'on n'appelait pas juif, les Hébreux qui étaient les esclaves, qui sont devenus libres, mais pour servir Dieu. Et c'est ce qui introduit la liberté. Et en même temps, nous voyons qu'il y a dans la traçabilité un autre, cette nuit-là. La nuit où Yeshua Mashiach fut livré. Cette nuit-là de Yaakov, la nuit de Pessah, et la nuit du Pessah du Mashiach a changé le cours de l'histoire dans l'humanité. Et elle a amené toute la dimension accomplie dans un premier temps de la rédemption, d'un nouveau calendrier, d'un nouveau cycle, d'un nouveau temps. Et c'est cette nuit-là qui marquera non seulement la fin de l'esclavage physique naturel, mais aussi celui de la mort. Cette nuit-là, à Pessah, l'ange passa. L'ange passa. Des siècles après, Yeshua Mashiach va, lui, donner le sens total, profond, de la rédemption. Et il va être livré. Ce ne seront pas tout le monde qui seront morts, tous les premiers-nés, mais lui, le seul, l'unique envoyé de l'Éternel. Celui qui rétablit le fonctionnement, qui répare la faute du cosmos, du premier homme. Mais je ne vais pas m'attarder là-dessus. La nuit de Pessah est une nuit qui est modifiée, vous savez, en fonction de quoi ? Du futur. Parce que Yeshua a très très bien et clairement précisé que de cette nuit-là jusqu'à l'avènement de son royaume, de son règne, il y aura beaucoup de choses qui vont se produire et s'intercaler également une nuit d'angoisse encore dans la dimension de Yaakov pour le peuple d'Israël que nous commençons à vivre maintenant. Lorsque nous allons être comme Yaakov au guet de Yabok, vous croyez que c'est les nations qui vont venir nous défendre? Vous croyez que les Juifs ont confiance dans la politique humaine? Vous croyez qu'on se réfère aux pronostics des économistes? Nous nous référons à la Tefila, à Dieu, dans notre émouna, dans ce qu'il a commencé. Et dans ce qu'il achèvera. La foi d'Israël n'est pas une foi qui met sa confiance dans le système humain politique, mais il la met en Dieu, comme il a toujours fait. Et c'est ce qui modifie complètement la compréhension. C'est ce qui change totalement les données. C'est que il faut bien comprendre que quoi qu'il puisse se passer, même si nous devons marquer la solidarité et ne pas accepter ce qui est en train de se faire de manière inhumaine, ne veut pas dire que nous ne comprenons pas ce qui se passe. Nous comprenons que nous arrivons dans le temps de l'angoisse des nations. Le temps d'angoisse qui amènera un certain nombre d'éléments et de jugements. Et en même temps, dans ce temps où nous voyons les prophéties s'accomplir, où tout le monde est en train de nous caricaturer de sales juifs, et qu'on va nous tuer, nous violer ou autre, qu'à un moment donné, il y a des aspects disproportionnés, incompréhensibles. Et que, quelque part, même si nous sommes ébranlés dans les nations, c'est simplement parce que c'est le temps pour nous de partir des nations. C'est l'accomplissement des prophéties. C'est le temps de la montée. C'est le temps du rassemblement. Mais en même temps, c'est le temps de notre angoisse. Et ce temps de l'angoisse qui va nous amener à ce que les nations vont déclarer Jérusalem, ce qui commence vraiment de plus en plus actuellement, à déclarer Jérusalem comme étant une pierre pesante, une lourdeur politique, insoluble dans un conflit, impossible à résoudre sur le plan politique. Et Yerushalayim va être tellement, tellement au cœur du débat du futur conflit, va être tellement au cœur du débat de l'ONU que les nations vont s'assembler tant militairement que politiquement. Ça a déjà commencé. L'Iran a déjà déclaré que la solution là-bas, c'est l'arme nucléaire. Hein, c'est clair. Bon. Les autres, qui ne sont ni sunnites ni chiites, déclarent qu'il faut l'État islamique. On va encore plus loin. Et à un moment donné, il faut avoir la réflexion et se dire que, oui, jusqu'au royaume de Dieu, il y aura effectivement, à un moment donné, où Mashiach viendra, comme un voleur dans la nuit, à l'heure où personne ne s'y attendra. Ah ! Et là, il se passera beaucoup d'événements. C'est tout le sens même, sans le développer maintenant, de la parabole, le sens même des paraboles des 10 vierges. C'est tout. Et il y a ceux qui ont lu l'éveil et ceux qui ne l'ont pas, ceux qui sont éteints et qui s'éteignent. Et nous devons aller quand même plus loin. Il s'agit pour nous de bien comprendre maintenant, à partir de cela, l'enjeu de cette paracha. Mais l'enjeu de la paracha, non pas dans une compréhension purement rabbinique dans le judaïsme, mais à la lumière du Mashiach, uniquement dans le sillon du Messie, uniquement dans ce qui unit au Messie. Et comme je vous l'ai dit, le texte de cette paracha, le texte fondamental, le cœur, le noyau, le secret, tient en 8 versets. C'est ces 8 versets qui feront basculer l'histoire. 8 versets qui ont des millénaires. 8 versets qui n'ont rien à voir avec les hommes et les gens et les coutumes et les modes de notre époque. Mais 8 versets qui ont écrit l'histoire. 8 termes qui ont été utilisés et qui ont leur impact profond aujourd'hui. 8 versets, vous imaginez. 8 versets, c'est rien. Ça représente quoi sur des millénaires? Hein? Rien. Et pourtant, ces 8 versets ont fait basculer toute la dimension de l'humanité. Alors, s'ils ont le pouvoir, la capacité de faire basculer l'histoire, c'est-à-dire comprendre, pas le passé, le futur, et que nous devons en saisir pleinement le sens, et le fait que la rédemption, ce n'est pas simplement une attente bébête d'un événement qui va se produire et dont on ne sait pas exactement quel est le tenant et l'aboutissant, mais que la rédemption elle a des fondements solides et qu'elle s'ancre dans ce qui s'est déjà produit. Et en même temps, il nous faut mettre en parallèle cette réalité, rien de ce qui s'accomplit. Ça, c'est pour être clair, net, avec toute forme de faux prophètes, avec toutes sortes de fausses annonces, avec toutes sortes de fausses prédictions, avec toutes sortes de fausses spéculations sur les événements et leur donnant un sens, une interprétation parfois douteuse, ésotérique, à la Nostradamus. Et il y en a plein aujourd'hui, des médiums et des gens comme ça, autant que dans les milieux religieux, partout. Ça a toujours existé, c'est pas une nouveauté. Mais attention à qui nous faisons confiance dans ce qui est dit. Qui écoutons-nous Et si nous écoutons ces 8 versets, on ne va pas s'égarer. Mais au contraire, on va comprendre quelque chose d'extraordinaire. Alors, rien de ce qui s'accomplit n'a déjà été présent dans l'histoire. En fait, il n'y a pas d'invention. Il n'y a pas quelque chose qui vient se superposer, marquant des nouveautés dans des nouvelles formes. Non. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Alors, si on entrait dans la véritable étude rabbinique, on verrait que là, nous devrions déchiffrer les codes, les chiffres, les noms, les lettres, les significations, le sens, sans être ni dans la Kabbale, sans être dans toute numérologie, mais dans le sens réel de ce que Dieu a dit, dans chaque mot, dans chaque lettre, dans chaque verset. Mais là, ce n'est pas le but aujourd'hui. Parce qu'il y a le langage de Dieu, qui est un langage d'abord codé, et qu'il nous demande de déchiffrer. Ce qui manque aujourd'hui, c'est le déchiffrage. Ce qui manque aujourd'hui dans la pensée humaine, dans beaucoup de drages, c'est-à-dire de messages, de prédications, d'enseignements, c'est d'amener le déchiffrage de ce qui est caché, et de l'amener dans une révélation, et de lui donner un sens dans la vie, dans l'application, dans la compréhension de ce qui se produit, dans l'actualité, parce que nous ne vivons pas dans l'actualité d'hier, nous vivons dans l'actualité d'aujourd'hui. Je ne vis pas dans l'actualité de la guerre d'Algérie, là où mon père est mort, là où mon père a été assassiné. J'ai quitté ce lieu-là. Mais aujourd'hui, il se produit des choses, des événements, des catastrophes naturelles. Aujourd'hui, plus personne, même Monsieur Allègre, de toute façon, allègrement, il renoncera à ce qu'on admette que le changement climatique a bien lieu et va bouleverser. De toute façon, nous vivons un ensemble de choses qui nous amène à réaliser que nous ne sommes plus dans les mêmes normes qu'hier et qu'il nous faut aujourd'hui décoder, déchiffrer le sens de la Torah, que dans la Torah, il y a les codes, ce qui est visible et ce qui est invisible, ce qui ne pouvait pas être déchiffré il y a peut-être 100 ans, 200 ans, mais qui aujourd'hui peut l'être, mais pas déchiffré n'importe comment, avec des choses qui ne sont pas en rapport. Ces 8 versets, seulement pour que toute l'histoire soit modifiée et donne le sens, comme je vous l'ai dit, de la rédemption, c'est-à-dire de l'accomplissement des événements, des choses. C'est-à-dire que vous ôtez ces 8 versets, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il n'y a pas de compréhension à ce qui se passe aujourd'hui. Ni pour un juif, ni pour un non-juif. C'est aussi simple que cela. Parce que tout a été fait en vue du Mashiach. Et tous les événements ne sont pas en vue de ce que l'homme souhaite voir arriver, se produire dans sa génération ou dans la génération de ses fils. Mais il nous faut bien avoir cet axe, qui est l'axe principal, essentiel de l'existence. C'est en vue du Messie et les événements et tout ce qui se passe et se produit n'ont de sens qu'à cause du Mashiach. Et non à cause de ce que l'on voudrait voir politiquement. Et beaucoup de gens croient encore à un espoir politique, croient encore que les allocations familiales vont augmenter, elles vont baisser. Et que tout va être enlevé, même l'épargne des gens. Il ne faut pas croire que l'amélioration, l'optimisme, je ne suis pas catastrophique, je ne suis pas apocalyptique, je suis réaliste. Et qu'à un moment donné, il faut savoir que la paracha nous amène à comprendre ceux qui veulent la défense du monde matériel périront avec le monde matériel. Souffriront les souffrances du monde matériel. de ce qui sera dans le monde matériel. Ils auront beau fuir, tu peux fuir en Suisse, tu peux fuir aux États-Unis, tu peux fuir là-bas. Ce sera linéaire dans les nations. Car le monde des âmes, le monde de Rome, touche à sa fin. Et les bouleversements l'accompagnent. Et il y a ce monde que Dieu a donné de la rédemption. Où, si nous n'avons pas cette dépendance de vouloir posséder la richesse matérielle, de vivre et de dépendre et d'être complètement liés à cette dimension, alors nous sommes libérés. En même temps, ça va nous donner l'occasion de pouvoir aller même plus loin, parce que nous ne serons pas asservis par le acheter et vendre. Un système qui se met en place et qui bloquera. Et on essaiera, parce que le pouvoir dans les mains des âmes, il est dans le monde matériel. Et on va voir. Je ne vais pas aller trop loin là maintenant. Alors, il est dit par rapport à Mashiach. Et il faut bien le comprendre que tout ce qui existe dans l'histoire, dans l'humanité, dans notre actualité, tout a été fait en lui, par lui, pour lui. Simplement, vous l'avez compris, comme certains très bons prédicateurs, que pour obtenir des choses pour vous dans votre foi minimale. Ce n'est pas le but. C'est de comprendre que tout ce qui a existé, ce qui existe et ce qui existera est en vue du Messie. Et que rien n'a de sens sans le Messie. Alors, pour approfondir un petit peu, quel est le sens que l'on peut donner à cette vieille histoire de la Bible qui marque notre actualité ? Celle d'aujourd'hui, celle de demain, comme jamais je pense, comme jamais. Nous voyons des choses qui nous étonnent. Les médias sont là pour nous le rappeler. Mais ce ne sont pas ce que les médias nous transmettent comme image qui doivent alimenter notre vie, nos prières. C'est la Torah. Eux nous disent-ils ce qu'ils veulent. Eux nous donnent leur information venant d'en bas. Eux nous donnent leur point de vue politique et personnel, parfois. Le point de vue d'une analyse. Le messianique, le véritable enfant de la Torah, n'écoute pas les médias, qui est un faux prophète. Il ne garde pas les images médiatiques. Il a les codes de la Torah. Il a la Torah dans le cœur. Ça ne veut pas dire qu'il faut rester dans l'ignorance. Mais nous ne devons pas mettre notre foi, notre confiance dans ce qui est dit, dans ce qu'on voit, qui est manipulé, qui est déformé et très dangereux. Notre confiance est dans ce qui est écrit. Yeshua disait, il est écrit. Et on va en voir la preuve. Et je crois que lorsqu'on entrera dans l'approfondissement, eh bien, on va découvrir un certain nombre de choses auxquelles personne n'a jamais pensé. Et je dois dire auxquelles, aujourd'hui, ces événements, ces choses prennent un sens, une profondeur inégalée dans ma compréhension, dans mon cœur, dans mon combat, dans l'orientation qui devient déterminant. Et qu'aujourd'hui, nous n'avons plus le choix. Nous devons choisir. Eh oui, oula. Yaakov, on en vient maintenant à notre texte, nous démontre qu'il a fui pendant un certain nombre d'années. Il vient de fuir maintenant Laban. Après avoir fui Ésav, il fuit Laban. Il va partir et il veut rentrer, il veut changer de vie. Il veut établir quelque chose où il n'est plus dans la domination de l'autre et que quelque part, il a compris que sa vie n'était pas restée chez Laban. Combien de gens l'ont compris, ça? Combien de gens restent l'esclave de leur maître dans le monde matériel? On va plus loin, c'est juste une parenthèse. Il a dû quitter la terre familiale de l'héritage et il doit y revenir. Alors, comment revenir sur quelque chose que l'on a quitté pendant des années? Comment Yaakov peut-il, après autant d'années, avec un ensemble d'événements qui se sont produits dans sa vie personnelle, mariage, etc., peut-il envisager de retourner dans un lieu où il sait pertinemment que la mort l'attend? Ce n'est pas un coup de poker, ce n'est pas une tentative hasardeuse, comme certains suicidaires. Ça n'a rien à voir. Yaakov est conduit, malgré lui. Il sait que maintenant, c'est le temps de rentrer. Nous savons qu'il y a des événements qui se préparent et qui démontrent que c'est le temps de rentrer. Que c'est le temps de rentrer dans la bergerie. Que c'est le temps de quitter un monde qui a été construit sur la matérialité, sur le veau d'or. Et même dans l'âge d'or religieux, de toutes ces choses qui ont amené une idéologie. Aujourd'hui, c'est le temps de quitter. Pour rentrer. Et ceci a beaucoup de sens et de signification, et j'aimerais simplement, pour amener un certain nombre d'éléments de compréhension dans vos cœurs et votre vie pour qu'ensuite on puisse aller plus loin, c'est de comprendre qu'on peut toujours fuir. C'est ce qui a marqué la vie de Yaakov, la fuite. Pas l'affrontement, la fuite. Toujours parti. Il a toujours quitté, toujours obligé de fuir, de fuir, de fuir. Mais qu'est-ce qu'il fuit? Qu'est-ce qu'il fuit, Yaakov?
La mort?
Non. Lui-même. Il fuit son passé, ce qu'il a fait. Il essaye de l'oublier. Il essaye, à sa manière, de quitter son histoire, de recréer une histoire. En fuyant, en s'établissant ailleurs, il pense que là, il va devenir un homme nouveau. Et que, pensant devenir un homme nouveau, c'est la vanne qui vient la servir et qui vient, en quelque sorte, le dominer, conditionner, afin que son futur soit bloqué, afin que sa vie soit bloquée. Et puis que, finalement, il oublie son appel. Et ceci peut toucher beaucoup de gens. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de pasteurs, d'églises, de rabbins, de personnalités dans tous les domaines. Parce que ce que j'ai pu voir, c'est que beaucoup de gens fuient. Beaucoup de gens fuient. Beaucoup de gens sont des fuyards. Beaucoup de gens évitent un certain nombre de choses. Et on va voir pourquoi. Parce que ce n'est pas simplement fuir le passé ou son histoire. C'est qu'il y a une réalité dans l'existence de l'homme. C'est que notre futur nous rencontre dans notre passé. Quand notre futur, tôt ou tard, dans notre histoire, dans notre appel, notre vocation, dans ce que nous sommes génétiquement, vient nous rencontrer et vient nous déranger. Et ceci nous amène beaucoup plus loin. Parce que quand nous rencontrons notre passé à la croisée de notre futur, qu'est-ce qui se produit? C'est là que nous nous combattons. Il y a un combat. Et vous allez voir que quand on va rentrer, parce que là on est juste en les préliminaires, même si on est fatigué. Vous allez voir, ça va vous réveiller bientôt. S'il y a quelqu'un qui dort à côté de vous, tu lui mets un coup de pied. Hein. Et tu lui dis, c'est de la part du Rav. Comme ça, il dira Amen. un enfant bien éduqué. Il y a quelque chose d'extraordinaire. Jacob, non seulement il n'échappe pas à la règle, mais en même temps, ce que nous allons orienter, c'est les trois manières qu'il a de vaincre la haine des hommes. Parce que voilà, là où vous n'avez pas répondu tout à l'heure, c'est que vous dites la mort, ou ceci ou cela, on peut parler d'histoire, le passé, mais quel est l'événement qui relate la fuite? C'est ce qui s'est passé entre lui et Ésav. Il n'a pas fui parce que simplement il était un simple petit voleur, parce qu'il a volé trois petits moutons, ou non, des légumes à Ésav, parce qu'il lui aurait fait un petit coup par derrière dans le dos et qu'Ésav l'aurait très mal pris et qu'il veut le tuer. Non. C'est plus que ça. C'est la promesse du futur. C'est la possession non du monde matériel, mais du monde lié au royaume de Dieu. Alors, cet événement prend une ampleur très différente. Parce que, premièrement, dans ce que nous avons pu voir dans la paracha, c'est que Jacob va envoyer des messagers avec des cadeaux. Mais qui sont les messagers et les cadeaux? On pourrait dire, il y a plein de choses qu'on pourrait dire, mais je vais m'en cantonner juste à une notion. C'est que Ésav vient contre Jacob avec 400 hommes. C'est plus que la lettre Shin. Non, enfin bref. 400 hommes. Pour tuer un homme. Quelle est l'armée de Jacob? Sa famille, ses enfants, ses serviteurs et son bétail. 400 pour combien? Peu de gens. 400. Vous imaginez, on peut dire là, que Ésav ne voulait vraiment pas rater Jacob. Il savait qu'il n'avait pas toute l'armée syrienne derrière lui. Qu'il avait... Non, il n'y avait personne. Et qui c'est qu'il envoie devant lui, dans le futur, sa famille, ses enfants. Il les envoie. Et lui, il reste. Et il reste seul. Mais il envoie sa famille, pensant que Ésav n'a pas de compte à régler avec eux, et que s'il lui meurt, eh bien au moins il les laissera vivre. Et que peut-être l'Éternel pardonnera et établira au travers de ses enfants l'accomplissement de la promesse. Alors il va demeurer seul. Et c'est cette nuit-là qui est intéressante, de voir qu'il sait qu'il y en a beaucoup qui viennent pour le détruire et le tuer. Comme nous savons qu'il n'y aura pas qu'une nation qui va nous condamner. Nous savons qu'il n'y a pas qu'une seule nation qui va venir attaquer Jérusalem bientôt. Nous savons qu'il n'y a pas qu'une nation qui seront complices de toutes ces choses. Nous le savons. Et nous restons seuls. Nous restons seuls parfois lorsque nous tentons de dire même à des églises, à des pasteurs, à des chrétiens, de comprendre le sens d'Israël, non pas purement, sentimentalement, de manière folklorique, à vouloir faire Shabbat et seulement les fêtes de l'Éternel, mais le sens de son histoire. Et que tout le monde déserte. Et Jacob se retrouve seul. Qui envoyons-nous aujourd'hui devant nous? Et je crois qu'il y a une question profonde qui peut être posée à ce niveau-là. Alors, lorsque nous commençons à comprendre que Ésav est celui qui va voir arriver devant lui des femmes et des enfants, des serviteurs avec des bâtons, puis les autres, ils ont des lances, boucliers, casques, patibulaires, prêts à la guerre, drogués, et oui, prêts à vouloir tuer. Ils vont se trouver devant des enfants. Vous imaginez Ésav? Il dit, qu'est-ce qu'il a, Jacob? Il m'envoie les femmes pour me combattre. Il envoie les bébés. Ça n'a pas de sens. Et pourtant, ça en a. Et je vais glisser très vite là-dessus parce que c'est un point. Le deuxième, c'est ce qu'il faut retenir, c'est aussi le fait qu'il est resté seul. Et pourquoi Jacob est resté seul? Pourquoi a-t-il voulu rester seul dans ce lieu? Pourquoi a-t-il voulu passer la nuit là? Cette nuit-là, pourquoi a-t-il voulu la passer seul? Était-ce seulement parce qu'il avait besoin de se reposer, il avait fait un long voyage? Seulement parce que, quelque part, c'était nécessaire? Il a voulu le faire parce qu'il savait que cette nuit-là était l'enjeu du futur. Sans obligatoirement verbaliser, comprendre tout le sens et l'enjeu. Mais il savait que cette nuit-là allait être décisive dans sa vie. Et c'est le temps où il a prié. C'est le temps où il a prié. Et le troisième point, c'est le temps où il a combattu. Et là, on est dans le côté le plus étrange maintenant. On entre justement dans les dimensions qu'il y a une progression. On envoie les messagers, les cadeaux, il y a Ésav là-bas, il y a la prière, la tefila, et il y a tout un ensemble de choses qui sont en train de se faire, de se construire. Mais la prière ne résout pas le problème de Yaakov. Et tout à coup, il y a le combat à Yabok. Et le combat de Yabok nous amène quand même plus loin. Parce que c'est ce lieu qui est un lieu étrange. Cette nuit-là s'est passée dans le lieu de Yabok. Et nous devons comprendre que là, il y aura un certain nombre d'éléments et de choses qui ne sont pas liés au hasard. Pourquoi Jacob va choisir le gué de Yabok? Il n'y avait pas d'autres fleuves, d'autres endroits, d'autres manières de contourner Ésav, d'essayer de rentrer dans la terre par un autre chemin? Si, quand on connaît bien la géographie d'Israël, tout à fait possible. Mais il va choisir cet itinéraire et il va s'arrêter là, au gué de Yabok. Et ce lieu n'est pas, comme je vous l'ai dit, vraiment lié au hasard dans son passage. C'est un lieu qui donne un sens réel de ce qu'est ce combat, de ce qu'est aussi un combat. Parce que nous n'arrivons pas dans des lieux. Je change un petit peu pour entrer un peu plus dans l'édification. On n'arrive pas là où on en est dans notre vie sans qu'il y ait eu un itinéraire. Et dans nos itinéraires, nous en sommes là où nous en sommes. C'est un constat entre notre passé et notre futur. Nous ne pouvons pas dire « Je suis arrivé là, même dans cette dimension avec Dieu, mais cette dimension avec Dieu, maintenant, est pas suffisante. Et il faut aller plus loin. Et il doit y avoir des choses qui m'amènent plus loin. Et il y a des choses qui doivent nous conduire plus loin. Et c'est justement ce que Jacob est en train de réaliser, nous fait réaliser. Car avant que les choses s'accomplissent, eh bien, il y a un certain nombre de choses qui doivent se produire. Il y a des événements qui se produisent dans nos vies. Rien dans l'itinéraire de nos vies n'est oublié. Nous avons des points de repère de ce qui s'est passé. Nous savons, nous avons des jalons, nous avons un certain nombre de choses qui nous amènent à comprendre que aujourd'hui, ce que nous vivons, ce que tu vis, ce que je vis, ce que vous vivez, est-il du hasard? Ou est-ce un lieu où Dieu a voulu vous mettre parce qu'il y a un Ésav derrière qui vous maintient, ou auquel vous allez vous soumettre votre vie, mourir, ou bien rentrer dans le plan de Dieu? Voilà. Vous êtes là, dans une assemblée messianique, à presque 18h, un samedi, par hasard, pour écouter une nouveauté. Vous savez, les nouveautés, ça passe. Les modes, ça passe. Là, parce qu'il y a une trace du futur. Et Dieu veut marquer la trace de son futur, mais de sa compréhension pour Israël, pas le folklore, pas simplement savoir allumer les bougies de Shabbat, pas simplement faire correctement la prière de Shabbat. Car trop de gens aujourd'hui recherchent que ça. Je vais te dire, tu es dans l'erreur la plus totale. Ce n'est pas ça. C'est fondamental, important dans la vie juive. C'est important, fondamental dans la restauration. Mais ce n'est pas l'identité d'Israël. Ça va plus loin que cela. Ce n'est pas simplement vouloir échapper à une espèce de truc de malédiction du passé, qui certes est important à comprendre. Mais ce n'est pas uniquement là que nous devons nous arrêter. C'est d'aller plus loin. C'est le royaume de Dieu. Et ça amène beaucoup de choses. Alors, si nous voulons le traduire maintenant dans la pensée profondément juive qui m'anime et rabbinique en même temps dans mon cœur, dans l'orientation que j'aimerais donner, c'est que nos cœurs doivent savoir s'orienter dans le plan de Dieu. Beaucoup trop de gens fuient par déception, par amertume, mauvaise relation familiale dans les églises, avec leur pasteur, leur berger, leur système, leur ceci, leur cela, leur désaccord est toujours au centre et au cœur des préoccupations. Et vous arrivez au guet de Yabok, bloqué. Et Dieu dit, c'est ça, seulement ta vie. Changer d'église, de pasteur, de copain, de gens. Tu peux fuir géographiquement. Tu vas dans un autre lieu. Ah, c'est mieux. Et puis quelque temps, c'est pire. Et tu changes. Et tu changes. Et tu changes. Et tu changes. Et constamment, 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 constamment. Et aucune orientation dans le cœur et dans le futur. Rien. Le vide. Et Yabok, c'est ce vide. C'est qu'à un moment donné, lorsqu'on a épuisé, lorsque, comme Yaakov, on a été fatigué de la vanne, alors à ce moment-là, lorsque nous arrivons à certains lieux, eh bien, il y a un rendez-vous. Amen. Entre notre passé et notre futur. Mais il est dans notre présent. C'est notre présent. Parce que si nous voulons aller dans le futur, il faut savoir comment on va s'orienter. Si nous voulons aller dans le passé, ou rester dans ce que nous avons toujours été, et rester toujours dans le système de la fuite, de toujours éviter l'affrontement, éviter les vrais problèmes, éviter les questions cruciales, alors à ce moment-là, Ésav viendra à notre rencontre et nous anéantira dans tous les domaines de notre vie. Morale, affective, émotionnelle, familiale, professionnelle. Toutes ces choses seront touchées. Comme Laban a voulu toucher aux choses de Yaakov. Et que Ésav ne voulait surtout pas que Yaakov puisse toucher aux bénédictions spirituelles rattachées à la postérité au futur, qui est l'accomplissement du royaume de Dieu par le Messie. C'était ça l'enjeu. Et au fur et à mesure, alors fuis, change, modifie. Mais qu'est-ce que ça change dans ton présent aujourd'hui? Peut-être que tu l'as fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Et aujourd'hui, tu vas encore venir là un temps, t'établir sous tente, un nomade. Et puis tu repartiras dans les autres trucs. Et tu continueras dans les autres machins. Aïe, 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 aïe. Ou alors tu vas encore les mélanger pour être mieux troublé. Une ligne qui sépare. Et on y vient. L'Éternel est grand et l'Éternel est merveilleux. C'est qu'il y a une chose que nous devons comprendre, c'est soit nous sommes dans l'accomplissement, soit dans l'anéantissement du futur. Soit le futur s'accomplit parce qu'il est lié à la promesse de Dieu, soit nous allons à la fin de notre vie dans un anéantissement où le monde matériel est notre finalité. Point. C'est tout. Qu'est-ce que nous posséderons à ce moment-là? C'est ce qu'il faut comprendre. Alors je reviens maintenant à Yabok, parce que j'ai dit que c'était un point clé. C'est que Yabok, c'est un lieu qui sépare. Et le lieu qui sépare, on doit lui donner trois sens. Il y a trois sens à donner. Et le premier, c'est que Yabok vient marquer une séparation même géographique entre deux lieux, deux endroits. Il modifie une trajectoire de la terre, du sable, de l'Eretz, de la poussière. Et le fait que à ce moment-là, en plus, le Yabok était à son plus haut niveau, il débordait même. Ça voulait dire qu'il y avait du courant, il y avait de la force, que ce n'était pas un petit ruisseau. Hein, il ne faisait pas de trempette dans le petit torrent après une promenade de montagne. Là, c'était quelque chose où il y avait du courant. Et que, quelque part, il fallait quand même un petit peu de courage pour traverser. Et il ne fallait pas avoir peur. Donc, le premier, c'est ce qui marque une séparation géographique. Et cette séparation géographique, elle est aussi dans les territoires marqués par l'Éternel entre Ésav et Yaakov. Car Yaakov deviendra Israël. Et la différence au niveau géographique, c'est qu'elle démontre qu'Ésav a toujours habité dans un autre lieu que celui qu'il a voulu préserver. Il a simplement voulu empêcher Yaakov de revenir sur le lieu, c'est tout. Et donc ce guet de Yabok, premier lieu, c'est une séparation géographique. Il sépare quand même la venue des aves jusqu'à lui. Et il se sépare lui-même géographiquement du visuel qu'il pourrait avoir après toutes ces années par rapport à son frère. Le deuxième, c'est la séparation du physique, qui est le passage du passé. Et qu'est-ce que ça veut dire? Alors, il faut le comprendre dans la pensée juive. Il faut le comprendre dans la pensée réelle du sens spirituel. C'est que Yaakov, quand il va faire ce passage par le guet de Yabok, c'est son identité qui change. La séparation de son passé, c'est ce qu'il a été dans ce qu'il est maintenant par rapport à ce qu'il sera. Et l'enjeu du guet de Yabok est uniquement dans ces trois dimensions. Non pas une nostalgie de ce qu'il a été, de maman qu'il a protégé, nourri, qui a été gentil, ou la recherche d'une maman, où il dit « je vais peut-être retrouver là-bas une maman qui va, ou un papa, quelqu'un de gentil ». Non, non, parce que la vanne, il était sec. La vie de Yaakov, elle n'a pas été douce. Il y en a qui croient que vivre dans le Seigneur, c'est vivre « Alléluia ». Et de croire ces prédicateurs à la noix qui disent « Mais lorsque tu vas croire, mais tout va devenir beau. Mais 50 euros, demain t'en as 100. Oh. » Et vous le dites avec tellement d'amabilité qu'on n'a pas envie de résister à cette gentillesse. Lui, il a gagné 50 euros, toi t'en as perdu. Et ça. Ça. Mais derrière, qu'est-ce qu'il y a? Et vous dites plein de choses. Et vous dites, je vais prier, tu vas voir, et je vais t'annuler, machin, machin, machin. Et là, ce que nous voyons, c'est que cette séparation, elle amène le changement d'identité. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont les crises identitaires de l'existence. Israël a passé par des crises identitaires spirituelles, comme des crises identitaires nationales, comme des crises identitaires aujourd'hui, dans sa politique, dans son existence. Mais ce que je vois, c'est toutes les crises identitaires également, qui sont liées à l'Ecclésia, à chaque croyant que je croise, que je rencontre, avec lequel je discute, à chaque juif. Il se pose des questions par rapport à son passé, à son devenir, et quel est le sens de ce qui se vit. Quel est le sens de mon appartenance là, dans cet univers, dans ce moment d'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe? Oh, j'aurais mieux aimé vivre à un autre moment, à un moment passé, à un moment futur. Oh, mais pourquoi je suis là? Et il y a des crises identitaires parce qu'il n'y a pas de direction dans la vie. Et qu'il nous faut bien le saisir. Qu'à partir du moment où nous entrons dans quelque chose où nous ne savons pas ce que signifie notre passé, notre histoire, le sens de notre histoire par rapport au futur, nous sommes dans la crise. Et nous vivons mal, parce que nous ne savons pas quelle direction prendre. Alors les gens vont voir les braves médiums spirituels partout, dans la boule, et demandent la direction, et cherchent la direction, et demandent la girouette dans les directions. Et je vais simplement dire avec simplicité que si tu n'as pas appliqué même la tefila, la direction ne vient pas. Si tu n'as pas mis la prière, et si tu n'as pas réglé ta vie dans un sens, tu vas écouter la direction des autres, mais est-elle de Dieu? Combien de gens partent dans un autre lieu que celui qui leur était destiné dans ce combat? En changeant d'église même, en changeant de pasteur. Il y en a qui ne devraient pas venir ici. Il y en a qui devraient rester dans leur lieu. Vous serez mieux. Nettement mieux. Je vous le dis franchement. Et si vous allez être chahuté intérieurement, s'il n'y a pas un appel, une direction de Dieu, mais une compréhension de l'avancée et du machin. Parce que l'enseignement construit dans l'action. Si on est là simplement pour de l'écoute de l'amélioration stéréophonique, non. Au bout de 6 mois, tu changes, comme toujours, ce que tu as toujours fait. Mais il faut donner un sens. La direction de Dieu dans sa vie, c'est qu'à un moment donné, il doit y avoir quelque chose qui change maintenant, et qui se change maintenant. Et que ce n'est pas aller de lieu en lieu qui va changer ton maintenant, mais qu'à un moment donné, il va y avoir un vrai combat. Et que beaucoup de gens se combattent et combattent. Mais je vais dans le troisième point qui sera ma conclusion. Parce que il est important. Mais. Oh là là, j'ai même pas fait une. Le troisième point, il faut bien marquer une séparation entre ce qui est humain, physique, émotionnel, intellectuel, dans ce qui doit être une séparation avec le monde spirituel. Alors maintenant, on commence à comprendre l'enjeu de Yabok. Parce que lorsque nous commençons à comprendre les trois niveaux de la séparation, de ce guet de Yabok qui est là, il nous démontre également que il n'y a pas simplement que les souffrances humaines, les domaines humains dans lesquels nous sommes, mais que nous sommes combattus spirituellement. Attention, ce n'est pas des démons volants, hein, style dragon, là, qui... Il faut sortir des clichés, il faut revenir à la Bible. Et il faut comprendre que derrière, il est bel et bien parlé d'un certain nombre de choses. Et que il y a ce qui est un vrai combat et ce qui est un faux combat dans l'existence. Le véritable combat dans l'enjeu est plus réel n'est pas de dire. Et là, on se trompe de combat quand on dit « Oh, il faut prier pour moi parce que je souffre ». Ça, ce n'est pas le vrai combat. C'est qu'on n'a rien compris. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de souffrance et qu'il faut la nier. Ce n'est pas ça. Au contraire. Mais le fait de dire « il faut que l'aboutissement de tout soit finalement plus de souffrance » est faux. Je ne veux plus souffrir. Ou ceci, humainement, machin, les situations géographiques, les éloignements des enfants, machin, machin, tout ce qui nous éloigne et nous sépare de Dieu et de sa volonté est une souffrance. Mais parfois il y a des souffrances que nous vivons malgré nous, par les disputes, par toutes sortes de choses, qui ont amené des contrariétés, des séparations, des conflits, et qui ont donné des éloignements, premièrement géographiques, deuxièmement des éloignements au niveau relationnel, humain. On avait construit une vie, une marche ensemble, une prière ensemble, une prière commune. Combien d'ecclésias n'ont plus la prière commune ensemble avec ceux qui ont été connus dans le passé, mais qui sont partis? Et combien nous ont quittés? Combien ont dit « Oui, Israël !» C'est pour ça que le pipeau, moi, j'y marche plus. Et on bâtit un temps, et après on détruit ce qu'on bâtit, puis on essaye, voilà. L'identité est quelque chose qui se construit dans véritablement la prière. Et le point important de dire maintenant, c'est que la souffrance fait partie de la vie. Elle ne peut pas être évitée de l'existence. Celui qui nie cette évidence est leurré. Il ne peut pas être dans le réel. Alors, bienvenue dans le monde du réel. Parce que, non, souffrir, tout le monde souffre. Et qu'il n'y a pas une souffrance plus grande qu'une autre souffrance. Une souffrance, quand elle est ressentie, elle nous détruit. Point. C'est tout. Mais la souffrance, on va lui donner un sens. Ce n'est pas de dire, je ne veux plus avoir de souffrance physique, je ne veux plus de souffrance émotionnelle, je ne veux plus souffrir à cause de mon passé, à cause des gens qui ne m'ont pas aimé, à cause des gens qui m'ont battu, à cause des gens qui m'ont insulté, à cause des gens qui m'ont accusé. Je souffre à cause de ça. Tu peux souffrir, mais de toutes sortes de choses. Ok ? Et tu peux souffrir, si on va dans l'autre niveau, spirituellement. On ne s'est pas occupé de moi, on ne m'a pas chouchouté, on n'a pas prié pour moi. Quand j'avais besoin, justement, il n'a pas prié. Qui a prié pour Yaakov ? Qui a prié pour Daniel ? Et on est devenus des bébés, des gamins. Et le manque de soldats, le manque de maturité, le manque de cœur guerrier, le manque de gens qui s'engagent, qui sont véritables dans la prière et qui vont aller, qui ne vont pas avoir peur, fait défaut. Parce que constamment, on vit dans la souffrance. J'ai pas été, j'ai pas reçu, j'ai pas eu d'amour, je souffre de ça, je souffre d'absence, je souffre de solitude. Bien sûr, tout ça, c'est vrai. Et je, loin de moi d'éloigner l'idée et de la minimiser. Mais est-ce la vraie souffrance ? Est-ce le vrai but de la souffrance que de vouloir simplement enlever tout ça et dire, ben voilà, si j'ai plus ça, comment je serai demain? Je serai quelqu'un de meilleur, certainement de beaucoup plus gentil. Je serai certainement quelqu'un de plus aimable. Vous croyez? Vous croyez? Vous serez toujours les mêmes. Un Shadok en puissance. Renouvelé. Et ça, en psychologie, je peux vous le garantir, c'est le trou noir. Et si on veut simplement donner un sens profond, vouloir guérir cette identité du monde matériel, cette identité du vécu dans lequel, effectivement, nous subissons toutes sortes de fléaux. Si Dieu voulait que, quelque part, le but de la rédemption soit d'arrêter que ce type de souffrance, y aurait-il eu besoin du Messie? Ben non. Non. N-O-N. N-O-N. Mais, si le Messie est venu, c'est qu'il enlève la souffrance de toute l'humanité, du cosmos, du monde d'en haut comme du monde d'en bas. Et que la véritable délivrance de cette nuit-là, c'est la délivrance de l'identité. Qui sera Yaakov quand il sera Israël? Et il sera affermi Israël, non pas au chapitre 32, mais au chapitre 35. Quand il habitera dans la maison de Dieu, El Bethel, à Lourdes, à Jérusalem, Baruch Hashem. Et là, Dieu réitère en disant, ton nom n'est plus Yaakov. Là, c'était le changement de trajectoire, dans le choix. Mais ce n'était pas l'identité définitive. C'est quelque chose qui maintenant allait marquer un changement, mais qui devait s'établir. C'est pourquoi la paracha, il envoya, la prochaine, c'est il s'installa. Et donc, à partir du moment où on comprend que la véritable délivrance, la véritable identité est celle qui libère de l'identité du Gan Eden, de la malédiction, et que nous devons nous revêtir de la rédemption, du salut, du Mashiach. Et Paul dit bien, à un moment donné, même très très bien, que nous devons être revêtus du salut. Celui qui pense que il suffit d'avoir une guérison, une délivrance psychologique ou émotionnelle et psychologique, uniquement identitaire, liée à la vie du monde d'en bas, dans les souffrances du monde d'en bas, c'est trompé dans la rédemption. Et il a besoin d'aller plus loin. Et Paul dit bien, revêtu du salut, donc du Mashiach, du Messie. Éphésiens 6 est véritablement en rapport avec ça, parce qu'il parle des armes qui sont liées au fait d'être revêtu dans la rédemption, et non pas de chasser, de faire Zorro. Oh, ça sent... Touché. Ou de lui dire, va-t'en, va-t'en. C'est pas ça. Écoutez, il faut qu'on sorte des lieux d'amusement. Il faut qu'on arrête dans les lieux de mensonges. Et qu'on soit dans le réel. Ce n'est pas ce combat-là, le combat spirituel. C'est pas d'éloigner de soi quelques petits démons. C'est d'établir le royaume de Dieu occupé par Israël. Ça, c'est différent. Et qui donne un sens, c'est que toutes les souffrances, c'est l'absence de Dieu dans le lieu. L'absence de sa présence donne la souffrance, parce qu'il fait naître la mort, parce qu'il fait régner la mort. Et quand la mort règne, la maladie règne, parce que les fléaux règnent, parce que la putréfaction règne, et donne des infections, et toutes sortes d'infections naturelles et spirituelles. Et les gens ont confondu. Et n'ont pas compris qu'à un moment donné, ce n'est pas de dire « Nous avons autorité sur Satan, nous allons l'écraser, nous allons le chasser. » Oui, alors on fait un pacte avec toutes ces églises. Et dans 3 semaines, vous m'établissez une nouvelle économie. Quelque chose qui marche, parce que vous les avez bien chassés. Et quelque chose qui modifie, qui renverse le mariage gay. Mariage pour tous, annulé en 3 jours. Arrêtons de bluffer. Nous sommes dans le combat réel de la réalité où Dieu peut accomplir toutes ces choses en un jour, quand il vient. Quand il viendra établir son royaume, toutes les nations changeront en un clin d'œil. Et la véritable chose, non pas que je suis contre la délivrance. Non pas que je suis contre, mais je suis contre le fait qu'on est désorienté, même dans ce sens, et qu'on ait faussé le sens de la délivrance dans l'identité spirituelle, où moi-même je me suis fait piéger. Voilà. Mais à culpa. Et où il faut rétablir le sens, en disant que la délivrance va aller dans le sens de la rédemption. L'identité de Jacob qui devient Israël. Alors, c'est d'être revêtu en même temps de toutes ses armes et pas seulement d'une protection du mal, des autres, de certaines choses qui peuvent nous atteindre dans notre fragilité humaine, mais de réussir le futur, l'accomplissement. Alors pour conclure, il nous est dit que nous devons avoir les armes de la lumière. Ah, c'est pas seulement... Et les boucliers, et le casque, et tout ça. Hein. C'est aussi la lumière. Mais tant que tu vis dans les ténèbres, ta force est affaiblie parce que la lumière n'est pas. C'est tout. La pureté. La pureté. Où est la sainteté? Dans les familles. dans les vies, dans les comportements, dans les relations. Quand tu regardes quelqu'un, est-ce que tu es pur ou est-ce que tu es impur? Quand tu es à tous les niveaux, seul ou dans certaines situations, comment es-tu? Et tu oses dire après que tu es supérieur à l'autre qui, lui, donne libre cours à ses fantasmes et que, quelque part, des fois, on dit qu'on les combat, mais certains y plongent de gaieté de cœur. Et après, ils vont se faire délivrer. C'est crédible. Et j'en ai connu des centaines de gens comme ça. Et moi, à un moment donné, je lui ai dit, tant que t'arrêtes pas, prie pas. On fait pas l'aller-retour. On n'est pas dans le ping-pong. J'ai pas de temps à perdre avec toi. Si tu as envie d'aller là-dedans, tu y vas. C'est tout. Dégage. Pas de cadeau. Pas de cadeau. Si t'as pas envie de te purifier, moi, je vais pas perdre mon temps avec toi. Même si tu pleures, même si tu rends, même si... Tiens, tu veux un Kleenex? Le ciel n'a pas vocation à la perte de temps inutile, mais il a vocation à nous délivrer du mal et de la mort et de nous rétablir dans la vie et de nous donner la vie et de nous amener à l'existence. Alors, lorsque nous parlons de la pureté, de la kedusha, de la sainteté, parce que dans le mot kedusha, sainteté, il y a aussi ce qui nous sépare du pur et de l'impur. Toutes les lois de sainteté écrites plus tard dans le peuple d'Israël vont marquer ce qui est pur de ce qui est impur, de ce que Dieu veut, et que même Paul marquera qu'à un moment donné, nous ne pouvons pas être les deux à la fois. C'est tout. Le conflit, tout ce que vous voulez, les souffrances et le mélange. Les entre-deux, les indécisions. D'un côté, je veux le Seigneur parce qu'il y a des avantages, il y a des gentils gens, etc. Puis d'un autre côté, il y a l'attirance. Ce n'est pas seulement de l'attirance. C'est de l'amour pour le mal. C'est de l'amour du péché. C'est l'amour de vouloir quand même assouvir ses besoins. Il y en a qui m'ont dit, vous savez, la chair est faible. Il dit, oui, très faible. Tellement faible que t'es KO, mon vieux. Et je dis, je ne sais pas si tu vas ressusciter, toi. Je l'ai foutu la trouille. Ah, je lui ai dit, tu te détruis. Et puis après, tu crois quoi? Tu viens là et tu fais Alléluia. Et j'ai dit, mais tu crois qu'on va le croire à ton mensonge, toi? Il faut arrêter de bluffer. Aujourd'hui, on est dans le temps de la séparation, hein, dans les églises. Le temps de la séparation entre l'église apostate, celle qui va se soumettre à Ésav, au système du faux messie, et celle qui va marcher dans les pas de la sainteté, qui ne vont pas accepter la marque, qui ne vont pas accepter d'être chiffrés par un code barre, qui ne vont pas accepter de vivre dans la dimension d'un royaume qui va devenir satanique. C'est tout. C'est un choix. Et donc, à un moment donné, la sainteté est ce qui sépare. Quand Dieu dit qu'il a sanctifié ce jour, il a séparé le Shabbat, le jour de l'accomplissement de tous les autres jours qui allaient être souillés dans l'histoire. Mais qu'il n'y a qu'un seul jour qui rétablira le royaume de la lumière et le royaume de la vie, c'est le septième jour. Je ne vais pas aller plus loin parce que tout le message de Paul, pour vous laisser sur une note positive, c'est de révéler en nous l'identité du Messie. C'est de revêtir le Mashiach dans tous les niveaux de notre existence. Et il va le faire avec des termes simples. Nous ne pouvons être revêtus si nous ne nous sommes pas dépouillés. Nous ne pouvons pas être des enfants de lumière si nous demeurons dans les ténèbres. Etc. Donc, le temps du passage dans notre présent, dans notre maintenant, est certainement la clé du futur, de la délivrance, de l'existence, de la vie, de l'accomplissement, ou de l'anéantissement, ou de la souffrance dans ce monde physique qui va aller en augmentant. parce que le manque va augmenter dans, dans toutes ces dimensions. On va de plus en plus nous prendre de choses. On va de moins en moins nous en donner. De plus en plus, il va y avoir de la privation. De plus en plus, la frustration va augmenter. Et elle augmentera la criminalité, le cambriolage, le vol, l'agression. Et on accusera qui ? L'autre. Ça a toujours été dans l'histoire d'Israël. Chaque fois qu'il y a eu ce genre de problème, on a dit, c'est parce que les Juifs sont trop riches. Sous Hitler, les Juifs avaient trop de biens. C'était leur faute si les Allemands n'avaient pas assez. C'était la faute des Juifs. Donc, sachez, souvenez-vous, on n'a même pas fait l'intro de... une petite intro, disons. On a fait un petit chemin. Mais le meilleur est à venir. Alors, je ne sais pas si je le donnerai mardi ou pas, je ne sais pas. Mais une chose est certaine, c'est que si nous voulons approfondir l'itinéraire dans nos cœurs, c'est soit tu es dans un type d'enseignement qui construit et dans lequel tu te construis. Et il faut être cohérent. Soit tu es réorienté, mais tu acceptes la réorientation dans les règles. Et pas dans le mélange. Pas dans la dilution. Et pas en essayant d'être les deux à la fois et conciliateur. La sainteté, la règle de l'éternel, c'est d'avoir une ligne, un yabok, qui nous sépare du passé et du futur, qui nous sépare de toutes les choses et qui nous trace une ligne de sainteté. Parce qu'il écrit dans nos cœurs. Parce que l'Esprit Saint écrit dans nos cœurs.